Bonjour à tous. Voilà, on est encore heureux d'être parmi vous aujourd'hui, comme chaque année, pour vous donner des nouvelles de la mission, de ce qui se passe à Kinshasa. Et c'est vrai, comme Dominique l'a rappelé, ça fait 20 ans déjà, les premiers voyages, 2003. Et c'était le début. Mouna était partie là-bas, elle avait vu ses enfants, le nombre, et face au nombre, on peut être submergé un petit peu, découragé, de voir mais qu'est-ce qu'on peut faire. Alors pour commencer, on a le cœur de vous donner cette petite méditation pour encourager aussi au début de mission ou même dans la vie de tous les jours. Même à la fin de mission, on va le voir. Et alors, c'est une méditation qui est tirée d'un recueil de méditation, hein, Plaire au Seigneur, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, et qui commence par des questions, trois questions d'hommes de Dieu, sur justement, ben, qu'est-ce qu'on peut faire. Ces trois questions sont maintenant affichées. Première question, d'où aurais-je de la viande pour en donner à tout ce peuple ? Dans Nombre 11, verset 13, c'est Moïse qui parle. Deuxième question, un peu similaire, mais comment mettrais-je ceci devant 100 hommes ? Dans 2 Rois 4. Et dans Jean, cette question, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Et c'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, bon, le Seigneur nous avait à cœur d'aller vers ses enfants, mais qu'est-ce qu'on a pour tous ces enfants? Qu'est-ce que c'est? Alors, je vais vous lire un petit la méditation qui nous a touchés, et puis je vais faire d'autres petits commentaires, et puis après je vais laisser la place pour les nouvelles vraiment de la mission. Alors, trois questions, mais ça ne s'arrête pas, il y a les réponses de Dieu. Moïse est un géant de la foi. Dieu parlait avec lui comme un homme parle à son ami. Pourtant, il est accablé par la tâche de conducteur-législateur que Dieu lui a confiée. L'ingratitude du peuple, son mépris de Dieu, les plaintes répétées, ses désirs obstinés, orientés vers ce qui satisfait les sens, pardon. Même au prix d'un retour à l'esclavage. Tout cela mérite la colère et le jugement de Dieu. Que peut faire Moïse, intermédiaire entre ce peuple qui méprise la manne et réclame une autre nourriture? Et Dieu qui se met en colère avec raison. Moïse est fatigué. D'où aurais-je de la viande pour en donner à tout ce peuple? Il se tourne vers l'Éternel qui lui dit, bon, ok, je suis en colère, mais je vais leur donner de la viande pour, même pour un mois. Oh. Moïse qui dit, mais pour un mois, il faut tuer tout le bétail. La réponse de l'Éternel, mais la main de l'Éternel est-elle devenue trop courte? La deuxième question, c'est la question du serviteur d'Élisée. Le serviteur du prophète d'Élisée a vu son maître à l'œuvre. Il a été témoin de plusieurs miracles. Mais au moment où Élisée lui demande de nourrir 100 hommes, il ne voit que les 20 petits pains, les 20 pains en tout cas disponibles. Comment mettrais-je ceci devant 100 hommes? Là encore, la parole de l'Éternel s'impose et Élisée répond, on mangera et il y aura encore des restes. Parole de l'Éternel. La troisième question, c'est la question d'André, qui est découragé et pourtant, il a été témoin de nombreux miracles là, en présence de Jésus. Lui aussi ne voit que les ressources dont il dispose, 5 pains et 2 poissons. Il lui paraît totalement impossible de nourrir cette foule de 5000 hommes, comme demande Jésus. Il oublie, et il oublie la puissance et la bonté de Dieu. Le Seigneur, après avoir rendu grâce, multiplie les pains et les poissons et distribue la nourriture autant que les gens en veulent. Et il y a des restes. Alors, comme nous sommes accablés par les responsabilités, que ce soit matérielles ou spirituelles, que nous jugeons trop lourdes, n'oublions pas les biens et les facultés que Dieu nous a donnés. Quand nous sommes découragés par l'immensité des besoins autour de nous. Les exemples évoqués aujourd'hui nous permettent d'avoir une vue différente des problèmes qui nous troublent. Tournons-nous vers le Seigneur. C'est lui qui accomplit l'œuvre et ses ressources sont infiniment supérieures à ce que nous pensons. C'est la fin de cette petite méditation ici. Mais c'est vrai, on l'a lu, on l'a chanté dans ta maison. Dieu est un Dieu infiniment grand, il a tout entre ses mains. Il nous demande des choses, mais des fois, ouf, pour nous, ça nous dépasse. Alors au lieu de baisser les bras, on peut se tourner vers lui. S'il y a 20 ans, on avait baissé les bras, on n'aurait pas vu toute la bonté du Seigneur. On n'aurait pas vu les fruits à sa gloire maintenant qu'on peut vous présenter aujourd'hui. Alors aujourd'hui aussi, on est encore en face à des millions d'enfants de la rue. Mais avec le Seigneur, on peut avancer. Lui, il a tout ce qu'il faut pour ses enfants et il les aime. Alors, ça nous a touchés parce qu'on est en mission. C'est vrai que ça fait 20 ans, il y a eu des hauts, des bas, il y a eu des moments de découragement. Et moi, on a vu vraiment le Seigneur, on s'est tourné vers le Seigneur et on a pu avancer, voir des miracles. Mais ça nous touche aussi particulièrement dans nos vies aussi de tous les jours. Ça nous a encore été rappelé ce matin dans Matthieu 28. Dieu nous demande de faire des disciples, d'aller, d'être dans la mission. Et chacun, il nous donne quelque chose, un talent, pour participer à cette grande mission dans son œuvre. Ça peut nous paraître immense. Un voisin, des amis qui sont durs, qui se moquent, qui n'avancent pas, des enfants peut-être. D'autres qui peut-être sont en demande et on est submergé par ces demandes au niveau spirituel. On peut se tourner vers le Seigneur et changer de regard. Ne pas regarder à ces petites choses que l'on a, mais au Seigneur. Et lui va multiplier. Lui va faire quelque chose pour sa gloire. Plus largement, ça peut être des difficultés que l'on a dans notre vie. C'est vrai que le monde actuel devient de plus en plus compliqué. L'inflation, les maladies, l'insécurité et tout cela. Et là encore, on peut se tourner vers le Seigneur, au lieu de rester sur ces problèmes-là, on se tourne vers le Seigneur et on s'attend à lui, à sa paix, à sa joie, à tout ce qu'il a en réserve pour chacun d'entre nous. Voilà, c'est par ça qu'on voulait commencer, vous encourager et maintenant témoigner de effectivement ce qu'on a vécu et ce qu'on vit encore là-bas à Kinshasa. Voilà, je laisse la place à ma femme.
Voilà un petit peu quelques images pour vous donner un petit peu le goût de ce que nous vivons au jour le jour là-bas. Alors évidemment, il faut faire des commentaires parce que c'est pas facile à comprendre. Alors, on a voulu vous présenter que quelques aspects de ce qu'on a fait cette année. On peut pas parler de tout parce qu'on n'est pas dans un bilan d'activité. Mais on a épinglé des éléments importants. Donc, on a parlé de la formation de disciples. Cette année, on avait un groupe de 11 jeunes qui ont commencé avec nous une formation de disciples qui dure 2 ans. Et c'était vraiment très important. Donc, on vient de finir la première année. On a un très bon groupe. On est très reconnaissants. Et parmi ces jeunes, il y en a plusieurs qui ensuite s'investissent auprès des enfants, comme on l'a vu dans les autres images. Alors, pourquoi cette formation de disciples? Pour plusieurs raisons. Ce sont des garçons qui ont beaucoup souffert dans leur histoire de vie. Ils ont été rejetés, etc. Et du coup, ils ont vraiment besoin de guérison. Et plusieurs se sont convertis. Ils connaissent le Seigneur, mais ils ont encore vraiment besoin de le découvrir comme un père. Ils ont besoin d'être restaurés dans leur identité, dans leur histoire. Et on voit déjà chez plusieurs parmi eux qui se sont mariés des difficultés qui ressortent à cause de leur histoire, des craintes d'être abandonnés, des problèmes avec la nourriture, des difficultés avec toutes sortes de choses. Et du coup, cette formation de disciples, elle est vraiment importante parce qu'elle permet de travailler sur des choses cachées qui ont besoin d'être guéries. Et l'autre chose, pourquoi cette formation de disciples? Parce que à Kinshasa, il y a énormément d'églises. C'est un pays chrétien, mais il y a aussi énormément de sectes. Et du coup, il y a beaucoup de fausses doctrines, beaucoup de faux enseignements. Je vous donne un exemple. Dans certaines églises, on prend beaucoup de temps pour prier contre ses ennemis. Alors le pasteur va vous dire, on va se lever maintenant et on va prier contre tous les membres de famille ou tous les gens qui vous veulent du mal. On va faire descendre le feu sur eux. On va demander leur mort. Voilà. Et vous avez des tels enseignements qui sont crus. Hein, donc voilà. Ou alors on va vous dire que il faut absolument parler en langue. Parce que quand vous parlez en langue, ça va permettre à la personne qui est à côté de vous, qui est peut-être sorcière, de ne pas écouter vos prières et de ne pas ne faire obstacle à vos prières. Voilà, alors on a toutes sortes, je ne peux pas faire une liste, elle serait interminable, d'enseignements qui ne sont pas du tout bibliques. Et voilà, donc cette formation de disciples, elle est aussi très importante pour revenir à la Bible, quoi, et voir, aider nos jeunes aussi à trouver leur chemin spirituellement, quoi. Alors, voilà, ça, c'était la formation de disciples. Alors, on a maintenant plusieurs jeunes. Donc, on est grands-parents, comme on vous a dit. Ça fait 20 ans qu'on est là-bas. Du coup, nous, quand on est arrivés, on s'est occupés d'enfants. Et certains se sont donnés au Seigneur et se sont investis pour retransmettre à des enfants. Et c'est ce qu'on vous a montré par ces images. Donc, on vous a montré d'abord Daniel, qui est un enfant qu'on a vu grandir et qui s'est converti, qui s'est marié, qui a aussi maintenant une petite fille. Et lui, il s'est vraiment repenti de sa vie. Il était dans l'occultisme, il était dans l'immoralité. Et il a vraiment tout abandonné pour suivre le Seigneur. C'est vraiment une grâce. Et aujourd'hui, il a découvert un don avec les enfants. Il a une grande douceur. Et il fait un club dans le quartier, donc là où on habitait. Parce que là, on vient de déménager depuis 3 mois, mais là où on a vécu pendant 5 ans, donc c'est un milieu où il y a aussi beaucoup de sectes, beaucoup de pauvreté, et des enfants sont déscolarisés, sont désœuvrés. Du coup, il a rassemblé un groupe d'enfants chez une maman du quartier qui est chrétienne, et petit à petit, les enfants viennent de plus en plus nombreux. Actuellement, ils sont environ 70 à chaque activité, donc chaque vendredi après-midi. Alors, il y a une petite équipe, donc on a plusieurs autres disciples qui vont le soutenir. Et c'est ce qu'on a vu, donc il leur apprenait le verset. Vous avez vu comment, c'est impressionnant comment un moniteur arrive à gérer 70 enfants. Nous, ça nous paraît impossible, mais eux, ils y arrivent parce que les enfants ont vraiment appris à rester calmes. Et voilà, vous avez vu, ils ont mis par groupe, il y a une rangée ici, une rangée là, et puis chacun va répéter le verset par groupe. Enfin voilà, c'est des techniques qui sont habituelles là-bas, quoi. Alors, donc ça, c'est le parfum de club de bonne odeur. Donc, c'est vraiment un groupe qui a commencé il y a 4-5 ans. Et on voit vraiment des fruits qui sont très encourageants. Il y a, suite à un enseignement sur les conséquences du péché, il y a eu une fille de 14 ans qui s'est mise à pleurer, qui était vraiment touchée et qui est rentrée chez elle, demander pardon à sa mère parce que ça faisait des années... que son grand frère volait dans la maison. Et sa mère voyait l'argent disparaître régulièrement et ne savait pas qui faisait ça. Et en fait, la fille, elle savait que c'était son grand frère, mais son grand frère lui donnait des petites miettes, donc un petit peu d'argent pour qu'elle se taise. Et il achetait son silence. Et là, elle a dévoilé ce qui ruinait la vie de famille, quoi. Et, elle a confessé sa faute. Et voilà, elle s'est repentie publiquement. Et il y a eu aussi un jeune qui s'appelle Diego, qui s'est levé en pleurant et qui a dit « Frère Daniel, moi aussi, je veux connaître ce Jésus dont tu nous parles, je veux l'accepter dans ma vie. » Et on a vu qu'il a vraiment changé, il a commencé à lire la Bible, même la nuit, ses parents le trouvent complètement transformé. Il a abandonné ses jeux de cartes, parce que là-bas, on joue beaucoup aux cartes pour de l'argent. Voilà, il a abandonné ses mauvaises habitudes pour se donner vraiment la parole de Dieu. Et voilà, on voit chez ses enfants une transformation, quoi, suite à l'enseignement de la parole de Dieu. On voit vraiment que c'est une parole qui est vivante, qui est agissante, qui transforme les vies, et c'est magnifique, quoi, pour nous. Voilà, donc ça reste évidemment un quartier très pauvre, en grande difficulté, mais on essaye de donner un peu d'espoir, de donner aussi un chemin, quoi, à ses enfants. Comme là-bas, personne ne s'occupe vraiment des enfants, donc c'est un champ libre. Et le deuxième enfant qu'on a, c'est Barnabé. Donc lui, on l'a connu il y a peu de temps. C'est pas un enfant qu'on a vu grandir, mais qu'on a connu et qui fait partie du groupe de disciples. Et lui aussi, lui, il a commencé un travail d'évangélisation parmi les enfants de la rue. Donc c'est comme ça que ça nous a aussi beaucoup touchés, parce que c'est très rare de voir un enfant qui n'était pas dans la rue, qui tout d'un coup se lève. Donc il est étudiant. Et il avait vraiment à cœur de faire quelque chose pour les enfants de la rue, parce qu'il voyait beaucoup d'enfants au campus, lui, comme il est étudiant au campus, et il voyait que ces enfants, quand ils grandissent, ils deviennent très violents, et quand il y a des troubles, c'était les premiers à venir brûler les voitures, à brûler les établissements, etc. Donc il s'est dit, bon, moi je vais essayer de toucher les plus jeunes pour éviter qu'ils prennent cette trajectoire-là. Et avec notre aide, il a pu avoir une association et puis commencer à réunir les enfants. Donc, ils n'ont pas un lieu. C'est pour ça que vous avez vu des chaises dans un jardin. Donc, en fait, ils louent les chaises. Chaque chaise coûte tant. Ils les installent dans un jardin public, là, et ils se mettent à faire leur activité. Bon, ce qui attire l'attention, évidemment, des gens qui passent. C'est très intéressant aussi, parce qu'il y a des gens qui viennent, qui sont curieux, qui regardent et qui, de fois, portent un peu de leur aide et qui sont aussi interpellés par le fait qu'on puisse aider ces enfants et s'approcher d'eux. Parce que les enfants de la rue sont vus comme des sorciers, comme des enfants dangereux, des voleurs. Ce qui est vrai pour le fait d'être voleur. Souvent, ils sont voleurs, effectivement. Ils sont violents, effectivement. Mais ils restent des enfants. Et on a vu en une année, parce que ça fait à peine un an, il a commencé en octobre, on a vu vraiment un changement chez ces enfants, parce qu'on ne vient pas qu'avec des paroles, mais on essaye aussi d'agir. Quand il y en a qui est blessé, d'essayer de le soigner. Ils ont fait beaucoup d'entretiens avec les enfants individuellement, et ils sont même allés chez les membres de famille, parce que ce sont des enfants, certains dorment complètement dans la rue et sont complètement écartés de leur famille, mais d'autres ont encore un membre de famille, une grand-mère, un oncle, et c'est fragile, quoi. La grand-mère, elle gagne rien, et elle a 3 ou 4 petits-enfants qui sont là, parce que ses enfants, voilà, dans le cas de certains enfants, le papa est mort, la maman s'est remariée, et finalement, personne ne veut de lui, donc il finit chez la grand-mère, parce qu'il y a qu'elle qui peut l'accueillir. Mais vous voyez bien, une grand-mère avec des garçons qui grandissent, c'est compliqué, et du coup, eux aussi, pour gagner leur vie, ils partent dans la rue, quoi. Et ça fait des enfants qui sortent de la famille petit à petit, qui s'endurcissent, qui prennent des mauvaises habitudes, et ils trouvent ce qu'on appelle des koulounas, c'est-à-dire les gangs. Et ils commencent à faire partie de gangs, et après ils se mettent à la drogue, ils se mettent à une sexualité précoce, etc. Donc toute leur vie bascule comme ça, parce qu'il n'y a pas vraiment la famille qui est présente. Alors, Barnabé et son équipe, là encore, on a plusieurs personnes qui interviennent avec lui, essayent de faire un travail de sensibilisation, de prévention et de scolarisation. Donc, on trouve un peu de moyens pour les aider, ceux qui ont une famille un peu plus stable, d'essayer de scolariser quelques-uns de ces enfants pour essayer de les sortir. Donc c'est toujours une goutte d'eau dans l'océan, mais on prie que Dieu fasse le reste et qu'à travers ces enfants qui sont sauvés, eux pourront un jour sauver d'autres. Et on fait avec les limites qu'on a, on ne peut pas, changer la situation. Je veux dire, le Seigneur ne nous le demande pas, mais on cherche à discerner parmi ces enfants qui va se lever, qui va l'accepter et qui va continuer aussi cette œuvre, qui va être sauvé aussi à travers l'Évangile, en fait. Donc, voilà, notre but, c'est vraiment de présenter l'Évangile à ces enfants et leur permettre d'être interpellés par l'amour de Dieu. Alors, le troisième groupe, là, vous avez vu des enfants qui sautaient, qui bougeaient, qui étaient extrêmement énergiques. Je trouve ça super rafraîchissant de les voir. Ils sont trop beaux. En fait, c'est des enfants qui habitent au village. Alors, ils sont extrêmement reconnaissants pour les activités qui leur sont proposées. Et là, c'est Peter, donc un jeune que, là, pour le coup, j'ai vraiment vu grandir et qui a été un enfant adoptif pour moi et qui s'est marié avec une Suissesse, Eva, et qui ont maintenant une petite fille d'un an, Mia. Et eux, en fait, ils ont commencé une mission dans une ville à 120 km de Kinshasa. Et ils ont acheté un terrain, ils ont commencé à planter toutes sortes de choses, à faire un terrain de foot et tout. Et maintenant, trois fois par semaine, ils accueillent des enfants. Et là encore, c'est des enfants, c'est un peu différent. C'est des enfants qui sont abandonnés un peu par leurs parents parce que les parents partent au champ. Et ils s'occupent des fois pas de leurs enfants pendant une semaine. Ils partent au champ pendant une semaine, ils restent au champ. Les enfants, on ne sait pas où ils dorment, ils peuvent dormir chez les voisins. Enfin, ils vont à l'école ou ils n'y vont pas, les parents ne s'en inquiètent pas. Et ça fait des enfants désœuvrés qui essayent de gagner un petit rien en travaillant dans le champ d'à côté ou en faisant des briques. Et du coup, Peter et Eva ont commencé à les réunir. Donc, ils ne peuvent malheureusement pas réunir beaucoup d'enfants parce qu'ils ne sont que deux. Et vous avez vu, on a mis exprès cette vidéo où on voit un groupe d'enfants qui essayent de rentrer, mais il y a un barrage. Il y a un jeune qui doit les compter parce qu'en fait, c'est les 20 premiers qui arrivent, qui peuvent participer à l'activité. Et les autres sont derrière la barrière et ils regardent ce qui se passe parce que c'est impossible de gérer... beaucoup d'enfants de manière qualitative et comme ils sont qu'à deux, enfin comme Eva s'occupe de Mia, Peter se retrouve quasiment seul, donc il en prend que 20 à 30 à chaque activité, trois fois par semaine. Donc voilà, là on cherche encore des moyens pour scolariser certains, pour peut-être embaucher quelqu'un pour les encadrer, pour aider à l'encadrement, etc., pour pouvoir finalement en avoir plus dans le groupe. Voilà, donc Peter et Eva, ils seront là dimanche prochain. Alors ça, c'est incroyable pour nous parce que ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on parle de notre mission dans notre église locale, ici aussi, mais pas aussi, depuis aussi longtemps. Et en fait, c'est un enfant qu'on a vu grandir qui est maintenant un homme et qui a une femme et une fille. Et ils vont venir dans notre église dimanche prochain pour présenter leur travail. Donc moi, je le fais très mal et très... je donne que des tout petits morceaux, on va dire. Mais eux, ils vont le faire de manière un peu plus complète dimanche prochain. Et il a été parrainé par quelqu'un de l'église. Donc ça sera aussi une rencontre parce que la marraine, elle m'a dit « Moi, je tombe sur les genoux quand j'entends que Peter va venir ici, quoi. » Et j'ai aimé son expression parce qu'on ne tombe pas sur les fesses, on tombe sur les genoux parce que Dieu est grand et il fait des choses étonnantes, quoi. Qui aurait cru que la personne que vous parrainez vient dans votre église présenter le travail missionnaire qu'elle a commencé? Donc c'est une grâce et Dieu est fidèle. Il prend le peu qu'on lui a donné, il prend le peu de consécration qu'on lui offre et il le multiplie pour sa gloire et il en fait quelque chose. Alors, c'est ça qu'on voulait vous partager aujourd'hui, vous encourager aussi pour vous dire que Dieu est vivant. Et le peu qu'on lui donne, il sait quoi en faire. Qu'il soit glorifié.